Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 121 et comme vous le savez déjà si vous avez lu le titre de l'épisode, c'est un spécial éducation. Et évidemment, c'est le Rendez-vous Tech, donc on va parler de tech et d'éducation. Pourquoi un épisode spécial et pourquoi un épisode qui ne traite pas de l'actualité comme d'habitude? Il s'est peut-être passé des choses absolument incroyables dans ces deux dernières semaines, voire trois dernières semaines depuis le dernier épisode. Nous sommes le 25 novembre, et bien parce que je suis en vadrouille au Japon, c'est mon voyage de noces. Donc je suis en train de boire du saké, de me baigner dans des onsen avec des singes qui me regardent de la montagne, de visiter Tokyo et Kyoto, etc. Donc je suis en train de passer un excellent moment, mais je ne vous oublie pas, nous ne vous oublions pas, nous voulons que vous passiez un très bon moment en notre compagnie aussi. Donc on a ce numéro un petit peu spécial qu'on a concocté il y a un mois au moment où vous enregistrez, où vous écoutez cet épisode. Donc c'est un épisode qu'on a concocté à la fin du mois d'octobre, avec mes trois invités de prestige. Je vais vous les présenter. Ça y est, ils commencent déjà à rigoler. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, avant ça, le but quand même de cet épisode est d'essayer. On va voir comment ça va se passer. Hein. Vous le savez, les podcasts et le Rendez-vous Tech en particulier, c'est souvent au gré des conversations. Donc on verra exactement où on arrivera, mais le point de départ, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment l'éducation appréhende le numérique et l'informatique en général, quel est peut-être le quotidien des gens qui sont dans cet univers, et puis peut-être ouvrir un petit peu plus au-delà avec la manière dont les étudiants, la jeunesse, appréhendent l'informatique, la maîtrise qu'ils ont de ce genre de choses-là, parce que pour nous, auditeurs et animateurs du Rendez-vous Tech, on est plongés là-dedans et on est des grands amateurs de ce genre de choses. Peut-être qu'on a une vision un petit peu biaisée de la manière dont la société française appréhende le numérique. On a souvent l'impression que c'est pas tout à fait brillant. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on se met le doigt dans l'œil? Eh ben, on va le savoir, du moins par l'approche qu'en ont les jeunes, les jeunes, comme on dit. Et donc, pour parler de tous ces sujets, j'ai trois invités qui m'ont fait l'immense gentillesse de répondre présent. Et on va commencer par le lycée avec David Roche, qui je peux dire les prénoms, pardon, les noms de famille.
Oui, oui.
C'est pas les noms, hein, d'accord.
Non, il n'y a pas de problème.
De toute façon, c'est trop tard.
Pour moi, c'est fait déjà. Donc.
Alors, j'aurais pu, tu sais, aller faire des petits tours de magie de montage. Donc, David Roche, qui est prof de sciences physiques et d'informatique au lycée. N'est-ce pas? Bonjour David.
Bonjour Patrick.
Merci d'être là. Je vais vous laisser deux minutes pour vous présenter un petit peu plus longuement dès que j'aurai fini les présentations. On a ensuite Jean-Yves Janas. C'est comme ça qu'on prononce ton nom de famille?
C'est comme ça, tout à fait.
D'accord.
Très bien.
Donc Jean-Yves Janas, qui est plus au niveau de l'université, donc qui est prof de C2I, si j'ai bien compris, certificat informatique et internet, et qui est accessoirement très actif dans d'autres domaines, vice-président éducation de l'AFUL. Ça va faire plaisir aux barbus amateurs de logiciels libres. Je les appelle les barbus avec affection, mais je constate que toi, t'as pas de barbe, Jean-Yves.
Non,
très déçu. Bon, l'AFUL, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres.
Tout à fait.
Voilà, j'ai pas dit de bêtises. Tu pourras te présenter dans deux secondes. Je termine avec Nicolas, qui lui est prof à l'ESSEC, donc plutôt dans le domaine des grandes écoles. Nicolas Glady, merci aussi d'être avec nous ce soir. Tout
merci
va bien.
Merci de m'avoir invité.
Ben, avec plaisir. T'es en forme? Prêt à débattre, à expliquer et à me contredire quand je dirais des bêtises?
Allons-y.
Ok, super. Donc, eh ben, écoutez, merci à vous trois d'être là encore une fois. Commençons tout de suite l'émission elle-même en vous proposant de vous présenter peut-être en une minute et demie. Allez, une minute et 28 secondes. On commence par David pour qu'on essaye que les auditeurs comprennent un tout petit peu ton parcours et où tu es, ce que tu fais aujourd'hui.
D'accord, ok. Donc moi, je suis prof de sciences physiques, comme tu l'as dit, depuis une quinzaine d'années en lycée. Et je suis aussi maintenant prof d'ISN. Alors, on va commencer tout de suite avec les sigles. Donc ISN, ça veut dire informatique et sciences du numérique. C'est une nouvelle spécialité de Terminal S. Aujourd'hui, on la trouve en gros dans la moitié des lycées français, je crois. Il y a possibilité pour les élèves dans la moitié des lycées français de suivre cette spécialité de terminale. Et quelque chose d'un petit peu plus particulier à mon lycée, je propose comment dire, une initiation à la programmation en classe de seconde et en classe de première. Donc moi, très orienté développement web, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc
Tout
voilà,
à fait.
je sais pas si j'ai dépassé. Ou...
Ah bah t'as été très court, c'est parfait.
Voilà.
Ok, donc plus l'univers du lycée effectivement. Merci David. Donc toi, tu es peut-être pour en connaître un peu plus sur ton background. Toi, tu es passionné d'informatique et de tech depuis longtemps ou c'est quelque chose une chose à laquelle t'es venu plus récemment par la force des choses?
Non, disons que j'ai commencé par là puisque mon père a acheté un ZX 80 de Sinclair. Alors
Ah,
pour les
ça rappelle des
connaisseurs,
souvenirs, oui.
voilà.
Ça ne me rajeunit pas ça.
J'avais une dizaine d'années. Bon, il y avait un bouquin de basique qui était livré avec et j'ai commencé à lire. Et puis c'est vrai qu'après, pendant mes études, je me suis un peu éloigné de ça. J'ai plutôt fait de la physique. Et puis bah, j'y suis revenu avec l'essor d'Internet, je crois. Là, ça m'a permis
Comme beaucoup de gens, ouais.
Voilà. Je suis revenu à l'époque où Internet a commencé à devenir indispensable et omniprésent.
D'accord.
Voilà.
Ok, super. Jean-Yves, à ton tour.
Oui, donc en fait, j'avais parlé tout à l'heure essentiellement de mes casquettes, mais je parlerai un petit peu de mon parcours parce que je vois que ça peut être intéressant.
Ah bah tout à
Donc
fait.
mes trois casquettes, c'est le groupe ITIC, Informatique Éthique, qui est le groupe qui a conçu un peu les programmes d'ISN dont David vient de parler. Donc ça tombe bien, c'est un bon enchaînement. Alors, ce groupe, il fait partie de l'EPI, une association qui s'appelle Enseignement Public et Informatique, qui fait partie maintenant de la CIF, Société Informatique de France. Donc en fait, des profs d'informatique qui se réunissent, enfin entre autres. Alors ma deuxième casquette, c'est les logiciels libres, comme tu l'as cité. Donc je suis vice-président chargé de l'éducation à l'AFU, l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Et puis mon métier, parce qu'il faut bien avoir un
métier, faut bien gagner sa
on
vie,
peut
faut
pas être
manger,
que
oui.
bénévole partout. C'est professeur certifié à l'université Lille 2. Donc j'enseigne, comme tu le disais, le C2I, donc certificat informatique et Internet, notamment le niveau 1, qui consiste à donner une culture numérique à tous les étudiants de licence. Alors, pour la petite histoire, comme je parlais de mon cursus, j'ai fait partie du groupe de travail d'experts du ministère qui a conçu le référentiel, enfin sa version 2, la circulaire du 14 juillet 2011, parce que c'est tout récent. Mais
D'accord.
le C2I existait depuis plus longtemps, mais j'ai un parcours assez particulier parce que j'ai fait 10 ans d'ingénieur en informatique avant de faire un concours pour être prof. Et pendant que j'étais prof, j'ai refait un DEA de psychologie des apprentissages. Et je
D'accord.
suis en fait électronicien de formation à la base. Donc
OK.
j'ai aussi commencé avec le ZX 81. Voilà, c'était pour la petite histoire, voilà.
D'accord, ok. Donc le ZX 80 est partout.
Ouais.
Donc toi, t'as un parcours, tu es passé par le monde professionnel.
Ah oui, j'ai fait 10 ans
D'accord.
de société de développement
Ok.
informatique.
Peut-être juste pour préciser, le C2I dont tu parles, c'est une formation. Alors c'est certificat informatique
Et Internet.
et Internet qui est un des modules que tous les étudiants de l'université doivent acquérir. C'est bien
Alors,
ça, j'ai bien compris?
c'est un module qui doit normalement être proposé à tous les étudiants, qui n'est pas forcément obligatoire.
D'accord.
Dans mon université, la formation sera proposée à tous les étudiants. Après, c'est les maquettes de licence qui déterminent si c'est obligatoire ou pas. On essaie de le
D'accord.
rendre au maximum obligatoire, mais
Oui.
ça se fait pas forcément partout.
Ah bah c'est une chose dont on pourra parler,
Ouais,
effectivement. Est-ce que ça devrait l'être et quelles sont les
ouais.
difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à ça? Et enfin, donc, Nicolas, d'où viens-tu? Est-ce que toi aussi, tu as découvert les joies de l'informatique avec un ZX 81? Maintenant, c'est la question que tout le monde va se
Eh
poser.
bien, écoute, oui,
C'est pas vrai.
je te jure. Et moi, ça va même plus loin parce que la légende familiale voudrait que, quand mon père m'a pris pour la première fois dans ses bras, il aurait dit, et je vous jure que c'est vrai, je t'apprendrai l'informatique, mon fils. Hein. C'était il y a plusieurs dizaines d'années de ça. Donc, tout petit déjà, j'ai baigné dans l'informatique et la technologie.
D'accord. Ah ben pour ceux qui savent pas, le ZX81, ouais. C'est comme on vous l'avez compris, hein, c'est une machine un petit peu légendaire qui a un statut très particulier dans le cœur des des passionnés d'informatique d'un certain âge dont je fais partie. C'est une machine qui est sortie au début des années 80 et qui était la machine de base que tous ceux qui ne pouvaient pas avoir une machine plus puissante essayaient. Fini quand même par Nicolas.
Donc effectivement, moi aussi, après avoir fait mes premières armes sur du Visual Basic et du logo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ah, mais bien sûr,
Bien en fait, j'ai d'abord commencé par une formation plutôt technologique, hein, puisque j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. Et puis j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé aussi dans le privé. D'ailleurs, pour revenir un peu à ce que j'avais fait avant, quand j'étais encore étudiant, j'avais convaincu ma mère, qui était directrice d'un lycée, d'installer, sans faire plaisir à Jean-Yves, Linux sur tous les PC de son école. Donc vous voyez que ça, on a beaucoup de points communs effectivement. Mais donc j'ai évolué assez rapidement vers quelque chose de plus business, puisque j'ai travaillé pour des grandes sociétés dans la banque, dans l'assurance, des sociétés de conseil, et puis après quelques temps j'ai rejoint l'ESSEC, où je donne en fait les cours de business analytics. Donc business analytics, en gros, c'est on va utiliser de la data, des techniques statistiques pour comprendre comment fonctionne un business, si on peut identifier des tendances, est-ce qu'on peut comprendre comment on peut optimiser le business.
D'accord.
Et donc dans ce cadre-là, un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on est en école de commerce que y a pas un côté technologique parfois très poussé, puisque les étudiants vont devoir parfois faire des statistiques, vont devoir comprendre comment fonctionne de l'algorithmique et des choses comme ça.
D'accord, super. Bah écoutez, je pense qu'on a une bonne vue d'ensemble de ce que vous faites. Plongeons-nous, pardon, je m'étouffe. Plongeons-nous dans le cœur du sujet. On va reprendre les choses dans l'ordre chronologique là encore. Moi, ce que j'aimerais savoir, en tant que peut-être un petit peu plus âgée, personne un peu plus âgée que les auditeurs, et encore que, il y a des auditeurs qui sont plus tout jeunes non plus, hein, on le constate souvent. J'ai une image assez, j'ai pas envie de dire négative, mais je vais le dire quand même, de l'approche de l'informatique et de la tech en général dans la société et dans la société française en tout cas, j'ai l'impression que les gens savent pas trop, ça leur fait pas un peu peur, mais ils s'en foutent un peu, ils comprennent pas à quel point c'est important. Et donc, par extension, j'ai presque l'impression que ça se répercute dans l'éducation. Alors, déjà là, en deux minutes, vous m'avez tous montré à quel point je me trompe peut-être avec toutes ces spécialités et cette importance qui est donnée à l'informatique dans vos différents cursus. Commençons donc par le lycée et par David. Toi, est-ce que tu peux nous décrire comment se passe ton rapport aux étudiants et ce que tu leur enseignes, et l'importance que prend la tech et l'informatique dans ton cadre de travail quotidien, c'est-à-dire le lycée et peut-être bon, l'éducation pré-bac, on va dire, en général.
Ouais. Alors déjà, ton impression était la bonne. C'est quasiment le désert. Hein. Bon,
d'accord, ça commence bien.
Non, mais je veux dire que voilà, tu t'es pas trompé. On est vraiment la sixième ou septième roue du carrosse dans l'histoire. Et il faut savoir que l'ISM, donc hein, je répète ce que ça veut dire, informatique et sciences du numérique en terminale, c'est la deuxième année. Avant, il n'y avait aucun enseignement d'informatique au lycée. Et bon, je parle même pas du collège. Voilà, c'est extrêmement récent.
Mais pourtant, dis-moi David, moi je me souviens qu'à l'époque justement de ces fameuses ZX81 et des TO7 et des MO5, ça rappellera des souvenirs aux anciens, c'était des ordinateurs de l'époque, on avait un enseignement de l'informatique au lycée.
Oui, c'était une option qui a été, je crois, alors Jean-Yves peut-être que tu sais mieux que moi, mais qui a été arrêtée en 1995 je crois.
Effectivement, il y a eu ça, mais il y a eu auparavant aussi un bac H, mais bon, c'était
un bac informatique,
mais c'est assez vieux. Je pourrais faire une petite histoire depuis 86, si vous voulez.
Disons, bon, si on y vient peut-être, mais disons que ce que je retiens effectivement, c'est que... Mais
David a raison, en fait.
Ce que tu me dis,
David, plus rien depuis un moment.
C'est ça, c'est-à-dire que véritablement, parce que bon, en 85, on apprenait à 95, on apprenait à coder trois mots en logo, ce qui était bien à l'époque, en basique, et en Pascal, etc. À l'époque, c'était bien, mais je veux dire vraiment l'informatique dont on a besoin aujourd'hui, elle est très différente de ce qu'on faisait à l'époque. Et puis avec l'avènement du web, c'est là que vraiment, je pense, on peut tous, du web, du net, on peut tous s'accorder sur le fait que l'informatique et la technologie est devenue infiniment plus importante. Et donc ce que ce que tu es en train de me dire, David, c'est que jusqu'à il y a 2 ans, cet enseignement n'existait pas au lycée en France.
Non, non, on avait un enseignement des outils, c'est-à-dire que on estimait qu'un élève au collège devait savoir servir d'un traitement de texte, d'un tableur, mais on n'avait pas d'enseignement véritablement d'informatique, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, la science informatique. Ça n'existait pas et c'est vraiment tout récent.
Alors,
tout récent.
Qu'est-ce que tu définis par la science informatique? Parce que finalement, savoir se servir de, enfin, pouvoir lancer Windows, savoir comment fonctionne, même plus que ça, savoir comment fonctionne un ordinateur, ce que c'est qu'un disque dur,
oui,
ce que c'est qu'un.
Bah, t'es en plein dans la science informatique, là.
D'accord, c'est ça.
C'est vraiment ne pas savoir comment on utilise OpenOffice ou enfin LibreOffice ou Word, mais c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Mm. C'est un peu pour beaucoup de gens et même pour beaucoup de nos élèves, ils l'utilisent tous les jours, mais pour eux, il y a un côté magique, un côté boîte noire, et ils comprennent pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Et l'idée de la science informatique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais c'est vraiment de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qu'on fait. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que tu enseignes des choses comme... alors voilà, ça c'est votre ordinateur, là c'est l'écran. Il y a à l'intérieur de la boîte... il y a un processeur, un disque dur, la RAM. Voilà, en gros, hein, très simplement, comment ça fonctionne. La RAM, c'est comme votre armoire où vous avez vos documents. Le disque dur, c'est comme l'armoire où vous avez vos documents. Le bureau, la RAM, justement, c'est le bureau où vous posez vos documents quand vous travaillez dessus. C'est ce genre de choses que tu enseignes?
Ouais, alors là tu as une partie, puisque dans la science informatique, enfin, dans le programme d'ISN tel qu'il est défini, on le définit en plusieurs parties. Donc il y a une partie réseau, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une adresse IP, des choses comme ça. Une partie algo. Alors là, tu vois, pour l'algorithmique, il y a une petite exception à ce que j'ai dit tout à l'heure, au constat assez désastreux que j'ai fait au début, c'est que l'algorithmie, maintenant, elle est enseignée depuis la seconde, mais dans le programme de mathématiques.
D'accord.
Et puis donc, nous, en ISN, on fait de l'algorithmie, et après, il y a la partie machine, donc c'est un peu ce que tu viens de décrire. Et puis enfin, il y a la partie programme, langage. Qu'est-ce que c'est qu'un langage? Qu'est-ce que c'est qu'une compilation? On rentre pas dans les détails, mais l'idée, c'est d'espèce d'avoir un corpus qui permet un peu de comprendre ce qu'on fait quand on utilise un ordinateur.
D'accord. Alors, j'aurais 2 questions à ce propos, et puis ensuite, on va passer à Jean-Yves. Premièrement, comment est-ce que les étudiants, enfin les lycéens, sont en cours? Est-ce que c'est une chose dont ils comprennent l'importance? Enfin, j'imagine que les lycéens, comme tous les lycéens du monde, hein, sont un petit peu en cours parce qu'il faut y être et qu'ils s'en foutent un peu. Mais comment est-ce qu'ils l'approchent? Est-ce qu'ils comprennent à quel point c'est important? Et d'autre part, la deuxième partie de ma question, c'est comment est-ce que ton administration, et là je veux pas que tu te mettes en mauvaise position avec ton administration, mais d'une manière générale, l'éducation en tant qu'administration en France, est-ce que c'est, là encore, bon, on le fait parce que tout le monde nous dit qu'il faut le faire, mais bon, les maths et la littérature, c'est quand même c'est des vrais sujets, quoi.
Alors,
pour les lycéens que tu as tous les jours dans tes classes, en fait.
Alors, déjà, il faut savoir que ceux qui font ISN sont volontaires. Parce que,
c'est pas un enseignement pour
non,
personne, c'est pas un enseignement.
Pas pour l'instant en tout cas, mais ils sont volontaires puisque en fin de première S, puisque c'est réservé à la filière scientifique, en fin de première S, les élèves avant avaient le choix entre 3 spécialités. Ils avaient le choix entre la spécialité sciences physiques, la spécialité sciences et vie de la Terre et en tout cas dans mon lycée, parce que dans d'autres lycées, il peut y avoir d'autres spécialités, mais les 3 grandes spécialités, c'était donc physique, maths ou sciences et vie de la Terre. D'accord. On a rajouté donc depuis l'année dernière une 4e spécialité, la fameuse spécialité informatique et sciences du numérique, et c'est donc en fin de première que les élèves choisissent leur spécialité, et là, ils sont totalement libres.
Excuse-moi, je t'interromps. Ouais. Combien d'heures par semaine ça représente cette spécialité?
C'est 2 heures par semaine.
C'est tout. Et ça fait la spécialité.
Ouais. Mais c'est toutes les spécialités comme ça. Hein. Ouais. Sauf que, évidemment, dans les autres disciplines, si tu prends spécialité physique, tu vas avoir 2 heures de spécialité, mais tu as aussi ce qu'on appelle le tronc commun qui doit faire 4h30 ou 5 heures en terminale.
D'accord. Ok. Et donc, les lycéens, ils sont plutôt bienveillants par rapport à la chose.
Ouais, mais la plupart sont débutants. Et ça, c'est une chose qui m'a impressionné dès le départ. La plupart des élèves sont débutants. Et donc, moi, j'ai déjà un an de recul, hein, puisque j'ai déjà enseigné 1 an la spécialité. Mmh. Et les élèves en sont sortis ravis. Ils étaient vraiment contents parce qu'il faut savoir, après je laisserai la parole aux autres un peu, mais il faut savoir que la pédagogie qui a été mise en avant, c'est une pédagogie de projet. C'est-à-dire que l'épreuve de bac, c'est une présentation de projet. Et les élèves, moi j'étais étonné, par exemple, le samedi soir, je recevais des mails, le samedi soir à 22h, je recevais un mail d'élèves qui étaient en train de bosser sur son projet, qui peut être un programme ou qui peut être autre chose. Et parce que bah voilà, il était un petit peu en difficulté la notion de projet a vraiment branché les élèves et ils nous ont fait une, d'ailleurs les élèves de l'année dernière nous ont fait une pub d'enfer et donc du coup on a doublé notre effectif.
Et par rapport à ça, David, moi j'avais une question. Je me demande, parce qu'à notre époque, j'avais l'impression qu'en fait, il y avait toujours 3-4 geeks qui étaient à fond dans l'informatique et une vingtaine d'autres étudiants qui n'en avaient pas grand-chose à faire. L'impression que j'ai, moi, maintenant, quand je vois les étudiants, c'est que tout le monde touche à peu près la techno, mais il n'y a plus ce côté très, très pointu de certains étudiants qui allaient, qui programmaient déjà à 10 ans, quoi. Est-ce que je me trompe?
Alors j'en avais, alors ça c'est très particulier, mais j'en avais trois l'année dernière, deux qui étaient comme ça l'année dernière. Pour vous donner une petite idée, leur projet ça a été de reprogrammer le jeu Zelda en C++.
Ouf,
ils ont dû faire une 15 000 lignes de code ou un truc comme ça.
Pas mal.
Bon, eux, je leur ai.
Est-ce qu'ils avaient les mêmes contraintes? Parce que les cartes Zelda étaient contraintes par la mémoire.
Hein, donc, non, justement, eux, ils n'avaient pas les mêmes contraintes.
Oui, bon,
ils ont fait un Zelda amélioré.
D'accord. Wow. Pas mal. Oh, là, d'accord, donc tu sens une vraie appétence, un vrai enthousiaste du côté des élèves quand même.
Ouais, mais ça c'était les geeks. Hein, les deux geeks dont Nicolas vient de parler, c'était vraiment particulier. Ouais. Mais sinon, la plupart des autres élèves, c'était des élèves qui n'avaient jamais créé une ligne de code de leur vie.
Bon, jamais créé une ligne de code, on peut le comprendre quand même. Ouais. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient déjà, je sais pas, changé une carte graphique par exemple, ou ce genre de choses? Même pas. D'accord. C'est des gens qui connaissaient l'informatique par leur smartphone, quoi. Par l'ordinateur évidemment, mais
ouais, mais alors ce qu'on confond souvent, mais le changer sa carte graphique par exemple, ça ne relève pas ce que moi j'appelle de la science informatique. Moi je connais des informaticiens, des chercheurs qui seraient incapables de monter un PC.
Non, bien sûr, c'est vrai, mais je pensais plus à ça comme, je veux dire, s'il y a une chose qu'un jeune, justement, geek est susceptible d'avoir fait, je me dis, c'est peut-être ça, parce qu'il voulait un truc plus puissant pour jouer à ses jeux, donc il s'est démerdé pour comprendre comment ça marchait, mais bon.
Ouais, mais souvent, l'élève geek qui nous arrive, parce que bon, en plus, moi, j'en fais dès la seconde, aussi de la programmation, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir après, mais le geek, souvent, s'imagine connaître, mais en vérité, c'est pas grand-chose.
D'accord.
Non, mais c'est au niveau programmation, il a écrit trois lignes de HTML, il s'imagine être programmeur.
D'accord.
Et c'est pour ça que quelque part les débutants arrivent complètement vierges de toute idée sur la question et du coup ben ils font plus d'efforts pour essayer de comprendre et c'est sans doute avec eux qu'on obtient les meilleurs résultats.
D'accord. Bon, peut-être rapidement le rapport à l'administration ou plutôt le rapport qu'a l'administration. Peut-être dans son ensemble, si tu as cette vision, par rapport à l'informatique aujourd'hui, les choses ont l'air de bouger un petit peu?
Alors les choses bougent, notamment sous l'impulsion des gens de le pays, sous l'impulsion de beaucoup d'universitaires, les choses sont en train de bouger. Mais il y a une inertie qui est absolument démente et le gros problème, je sais pas, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir là-dessus, mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'éducation au numérique. Et le gouvernement a fait une de ses priorités. Le problème pour moi, c'est que encore une fois, on est totalement dans l'outil. C'est-à-dire quand on parle de l'éducation au numérique, on se dit on va se servir de l'informatique ou du numérique comme média pour pouvoir diffuser de l'information plus facilement. On va distribuer des tablettes à tous les élèves. Et moi, je pense que là, on est sur la mauvaise voie.
Disons que ce sont deux choses très distinctes, quoi.
Voilà.
Effectivement, moderniser la manière dont on enseigne, c'est peut-être important, mais c'est pas du tout la même chose que d'apprendre les bases de l'informatique qui... C'est quand même très intéressant, je suis peut-être un petit peu en train de dériver, mais c'est quand même assez intéressant qu'on apprenne les fondamentaux à nos étudiants, à nos élèves, depuis l'âge de 12 ans. On apprend les fondamentaux des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la chimie, des fondamentaux dont ils ne vont jamais servir dans le quotidien, ce que je peux comprendre, hein, certaines écoles de pensée disent qu'il faut qu'on apprenne ces fondamentaux, mais et de la, l'histoire et de la littérature et de tout ce que vous voulez, mais plus pour le domaine des sciences, et que pour l'informatique, on ne voit pas du tout à quel point c'est important d'apprendre des fondamentaux de ces outils qui font, qui ont une telle importance dans la société aujourd'hui. C'est...
Bah, mais je, t'as tout compris, je crois même qu'on va te donner la carte, je sais pas ce que j'en pense. Mais on va te donner la carte d'adhérent.
Bah justement, passons.
Je pense que t'as tout compris.
Passons à Jean-Yves. Peut-être un cadre un petit peu plus universitaire, effectivement. Les mêmes questions qu'à David, si tu t'en souviens. Pour toi, comment se passe donc ton quotidien, le rapport avec les étudiants, le rapport avec l'administration, etc. Et comment ça a évolué?
Donc, alors je vais répondre directement à ta question. Par contre, je te demanderai la possibilité de répondre un peu par la suite à David sur le travail d'ISN, parce qu'en fait, comme j'ai fait partie du groupe ITIC en 2008, je peux un peu expliquer le combat.
Et notamment, vas-y. ISN. Alors, suite, reprécise de quoi il s'agit.
Et alors, puis... en fait, l'enseignement d'informatique et des sciences du numérique existe depuis 2 ans, et très rapidement avant l'interview, j'avais remonté quelques traces. Ça fait au moins depuis 2008 que je suis dans le groupe. Et en fait, c'est un combat de tous les jours. Enfin, c'est un combat permanent. Quand David dit qu'il n'y avait rien, c'est tout à fait vrai, mais il y a pas seulement rien. Il y a des gens qui sont contre tout le temps.
Des gens qui sont contre.
Oui, absolument. Oui. Donc en fait, je vais développer ça.
Mais il doit y avoir des raisons. Est-ce que c'est budgétaire? Est-ce que
c'est idéologique. Il y a deux vues, hein, que David a parlé d'une des vues qui s'oppose à nous. Alors il y en a qui disent outils, il y en a qui disent usage, mais ça revient au même. Et puis il y a ceux qui sont pour la vue de compréhension. Donc t'as bien posé le problème. Est-ce que la connaissance des fondamentaux théoriques, elle est nécessaire ou pas? Donc comme en maths, en physique, etc., pour comprendre les enjeux du monde numérique. Puis après, il y a le fait que David l'a aussi évoqué avec le principe de la boîte noire. En fait, on arrive à dire, ben voilà, on n'a pas besoin de savoir comment ça marche à l'intérieur, et la boîte noire, elle devient une boîte magique, voire au pire une boule de cristal. Et ouais. En fait, moi, j'ai l'habitude de. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des digital naïves, hein, où j'y reviendrai. À la place de digital native, on dit naïve pour les D'accord. naïfs du numérique. Okay. Et en fait, moi, j'appelle ça les Harry Potter de l'informatique. En fait, on a fabriqué des Harry Potter de l'informatique qui, avec une tablette, pour peu qu'elle soit souple, et ça va sortir dans quelques années, parce que ça existe déjà, bah, en fait, ils auraient leur carte du maraudeur, ils comprendraient rien du tout. Mmh. Et en fait, ce serait de la magie, et ils utiliseraient d'une manière magique les choses.
Alors, le problème. Asio, Word,
ouais, et ouais, ouais. qui apparaît. Tout à fait, mais enfin, j'espère qu'ils diront autre chose que moi.
Asio, LibreOffice, ok. Voilà, ouais, comme ça.
Et donc, si tu veux, le problème que David a évoqué, hein, c'est qu'il y a une partie de la société qui, pour des enjeux de pouvoir ou de puissance financière, hein, faut pas le cacher, hein, n'a pas intérêt à ce que les gens comprennent, parce que comprendre, ça veut dire avoir la possibilité de lire. Et donc, en fait, on a vraiment un blocus contre nous.
C'est quand même assez grave ce dont tu parles. Oui, je veux dire qu'il y a un lobby. Alors moi, si tu me dis ça, sachant que t'as un background, et je fais des anglicismes, dans le libre, est-ce que tu veux dire que il y a des industriels qui veulent pas que les gens apprennent les choses pour qu'on ne passe pas au logiciel libre? C'est ça que tu dis?
Bah, en fait, non. Enfin, oui et non.
D'accord. Parce que là, je suis pas certain que j'aurais tout à fait prêt à le croire, mais vas-y, élabore.
Si tu veux. Indépendamment des logiciels libres, il y a un certain nombre de lobbies, on peut les appeler comme ça, qui n'ont pas intérêt à ce que les gens soient en capacité de comprendre comment ça fonctionne. Et là, je pense que David y pourra réagir aussi tout à l'heure, parce que tout simplement, ça leur permet de vendre plus facilement ce qu'ils ont à vendre. Alors après, effectivement, les gens du logiciel libre, comme moi à la FUL, on pense que le fait de mieux comprendre comment ça fonctionne va amener vers le logiciel libre, mais à la limite
c'est accessoire, c'est une conséquence.
C'est une conséquence en fait. Voilà.
Mais excuse-moi Jean-Yves, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous dire exactement de quoi il s'agit? Tu veux dire que des développeurs de logiciels au hasard, hein, comme Microsoft, seraient contre l'idée qu'on enseigne l'informatique à l'école parce que si les gens comprennent, ils vont peut-être choisir d'autres logiciels que Word? C'est ça ton... D'accord, ça paraît quand même un petit peu tiré par les cheveux, non?
Ouais, justement, pour te donner une idée, Patrick, pour juste te donner un exemple, on s'est déjà fait insulter sur des listes, sur des forums, on s'est déjà fait quasiment insulter par certaines personnes.
Mais pour quelle raison? Parce que on sait bien, et dans le rendez-vous tech et aussi, hein, parfois les discussions deviennent animées quand on parle entre ceux qui veulent de l'Android et ceux qui veulent de l'iOS. Bon, c'est les discussions comme ça se peuvent partir assez violemment. C'est de ce genre de débat dont on parle ou vraiment
non,
des
non,
questions
non, 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 je dirais sans vouloir dévaloriser les débats Android contre iOS.
Hein. Oh, tu peux mais y aller, dire, hein, c'est vraiment pas les plus glorieux.
Ouais, je veux dire que c'est plus profond que ça, quoi. Le problème, je crois que Jean-Yves l'a évoqué, le problème est un peu plus profond que ça, et tu as des gens qui sont pas forcément directement liés aux grands acteurs de l'industrie, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose, qui sont qui nous insultent en disant qu'on est un groupe de pression, qui essaie d'introduire cette discipline qu'on appelle nous sciences informatiques, qui n'a strictement rien à faire dans les programmes de lycée, etc., etc. Il y a un vrai lobby contre nous.
C'est pas de la paranoïa. Il y a des enjeux de pouvoir en plus des enjeux financiers.
Alors, d'accord. Bon, ça je veux bien comprendre qu'il y ait des gens qui soient contre l'introduction de l'éducation de l'informatique dans le cursus scolaire et universitaire. J'aurais pas pensé que c'était vraiment pour des raisons de lobby industriel. Ça me paraît quand même un peu gros, mais enfin, ces gens-là, je veux bien croire qu'ils existent, mais j'aurais pensé que c'était pour des questions d'inertie administrative ou des gens qui étaient justement sincèrement ne comprennent pas l'intérêt de ce type de matière, qui voient les maths ou la physique comme des matières plus nobles et qui pensent que l'informatique c'est des gadgets.
T'as les deux.
Il y a les deux, d'accord.
C'est-à-dire que tu as ce lobby qui est clairement dirigé contre nous, et tu as aussi
Tu parles de qui, David ?
Eh ben, les gens qui essayent un peu de faire avancer les choses au niveau de l'enseignement de la science informatique.
C'est ça. Donc voilà. Là, on quitte complètement l'idée de logiciel libre. Tu veux dire simplement les gens qui voudraient que l'informatique soit enseignée.
Au-delà des logiciels libres, bien sûr.
D'accord. Donc il y a des gens qui vous disent simplement non, on veut pas de cette connerie à l'école, quoi.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et puis alors après, t'as l'autre côté que t'as évoqué aussi, qui est l'inertie administrative. L'inertie de l'administration, et là, je pense que c'est un problème qu'on soulèvera peut-être à un moment donné, mais là, il y a une vraie question qui se pose, et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'en 1995, l'option s'était arrêtée, c'est la formation des profs. Là, il y a un vrai problème de formation des profs, et ça coûte énormément d'argent de former des profs. Et c'est vrai que l'administration a tendance un peu à traîner des pieds pour que cet enseignement d'informatique se développe.
Mais alors, je suis désolé, on va revenir à toi, Jean-Yves, plus précisément, et à la manière dont ça se passe dans les universités. Mais pour moi, il me paraît, en tant qu'observateur extérieur, et je pense que pas mal d'auditeurs vont avoir la même vision que moi, le fait de regarder le monde aujourd'hui et de se dire oui, on a besoin de maths, et oui, on a besoin de physique, et oui, on a besoin de biologie, mais on a aussi besoin d'informatique. Alors pourquoi ne pas prendre, je ne sais pas, 10% du budget à la formation des profs de maths, 10% du budget à la formation des profs de tac, 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 et se faire quelques centaines de profs d'informatique ou de numérique en général par an? Comment est-ce qu'on peut penser que ça soit une mauvaise idée? Ça, je le comprends difficilement. Je suis sûr qu'il y a une raison, mais je comprends pas.
Il y a déjà pas assez d'argent pour les profs de maths et de physique.
Bien sûr, mais de toute façon, on va les former, ces profs. Enfin, il y en a un certain nombre qui sont formés chaque année. On est d'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut, quand on se dit, bon, bah, l'année prochaine, on va avoir, je sais pas moi, je sais pas du tout combien sont les chiffres, mais disons qu'on a 100 profs de maths, 100 profs de physique, 100 profs de biologie. Si on se dit, bon, on va faire plutôt, 80 profs de maths, 80 profs de physique, 80 profs de biologie et 60 profs d'informatique. De toute façon, tous ces profs, ils seront formés. Comment est-ce qu'on justifie le fait qu'on ne fasse pas ça quand on connaît l'importance de l'informatique aujourd'hui ?
Mais parce que il y a aussi des groupes de pression dans l'éducation nationale et les représentants des profs de physique, les représentants des profs de maths, les représentants de profs de biologie sont pas d'accord.
Mais ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des groupes au sein de l'éducation, donc des groupes, genre le syndicat, pas au sens syndicaliste CGT, mais je veux dire des groupes de profs de maths qui ont un certain pouvoir, qui sont réunis en tant que, je sais pas, association ou quelque chose, et qui veulent s'assurer que leur groupe n'est pas atrophié, c'est ça que vous dites ?
Alors c'est même pas au niveau des profs, parce qu'il n'y a pas de guerre entre nous. Moi je te dis, j'ai la double casquette, je suis aussi prof de physique. Hein, donc,
mais alors c'est à quel niveau du coup ?
C'est un peu plus haut. C'est au niveau, c'est un peu en dessous du ministre.
C'est dans les si ouais d'accord ouais. Voilà. Et donc il y a ouais d'accord bon Ok, Jean-Yves, quelque chose à ajouter sur ce sujet ou on...
Bah, sur la partie ISN, non, pas pour le moment.
D'accord.
Je vais répondre à la question
oui,
que
vas-y, vas-y.
Posée au départ hein, sur l'université. Donc il se trouve que j'ai été amené à participer à la conception d'un référentiel qui s'appelle Certificat informatique et Internet niveau 1, qui est donc que toutes les universités doivent proposer aux étudiants volontaires.
Alors, c'était depuis un petit quand peu ça simple.
Alors ça, depuis 2006 à peu près, il existe, mais le référentiel a été refondu en 2011. Donc c'est très récent.
Mais il y avait quand même l'intention depuis 2006. Donc.
Alors oui. Alors le problème, c'est que le premier référentiel était plus clairement orienté usage et outils. Le deuxième référentiel continue à être un peu orienté usage et outils, mais on a introduit une certaine dose de concepts informatiques dedans, comme notamment l'interopérabilité, qui n'est pas quelque chose d'évident à comprendre, ou la pérennité des données, des supports, etc. Mmh. Et grâce à ça, on espère que l'ensemble des étudiants de France, de licence, hein, donc L1, L2, L3, auront un bagage de culture numérique suffisant. Alors le problème qu'on a en université, c'est que, et enfin c'est pas un problème en fait, la grosse différence qu'on a en université par rapport au secondaire, c'est que ceux qui veulent faire de l'informatique ont des filières informatiques. C'est-à-dire que celui qui veut choisir de faire de la programmation, des bases de données, de la gestion de projets informatiques, etc., peut faire une filière informatique. Donc notre C2I niveau 1 ne peut être que quelque chose de parallèle. Il peut pas s'imbriquer dans de la formation informatique. Donc nous, on a défini un certain nombre de domaines qui sont pas des domaines informatiques. Et il faut quand même savoir que le certificat informatique et Internet, on aurait dû enlever informatique parce que dans les domaines, on a effectivement un domaine qui s'appelle travailler dans un environnement numérique évolutif où on doit comprendre l'interopérabilité, la virtualisation des ressources, les spécificités des environnements multiples, etc., les risques. Mais on a aussi un domaine qui s'appelle être responsable à l'ère du numérique, où on va travailler sur l'identité numérique, sur les réglementations, sur les licences, sur la protection de la vie privée. Un troisième domaine qui s'appelle...
Excuse-moi Jean-Yves, ce genre de choses, est-ce que vous étudiez, par exemple, l'importance de maîtriser d'être propriétaire de ces données, ce que ça veut dire de donner ces données à Facebook
Absolument.
Contre le service,
Absolument.
Et ce genre de choses. D'accord.
Exactement.
Et justement, tiens, puisque vous parlez de ça, il faut savoir qu'en ISN, on a aussi cette partie-là. Hein.
D'accord, oui, c'est très important.
On a une partie qu'on appelle sociétale, et juste une petite anecdote là-dessus. L'année dernière, mes élèves, une fois que le projet était passé, donc c'était un peu plus cool, donc au mois de début juin, on fait un exposé sur les conditions d'utilisation de Facebook. Aux autres élèves, il y a deux élèves qui ont fait un exposé là-dessus, et ben je te garantis que le lendemain, ils s'étaient tous désinscrits de Facebook.
Bon, je suis sûr qu'ils y sont venus assez vite, mais c'est sûr que c'est incroyablement important de comprendre tout ça au moins, et c'est bon. Ok, alors, bon, continue Jean-Yves.
Une toute petite remarque, c'est qu'en fait, le C2I niveau 1 peut être proposé à l'ensemble des étudiants de licence. Hein. Et c'est vrai que j'avais oublié de rebondir sur ce qu'avait dit David à titre tout à fait juste, c'est que l'ISN, c'est quelque chose que uniquement les terminales S peuvent faire, et encore pas tous. On est en train de se battre actuellement dans le groupe ITIC pour juste généraliser l'ISN partout. Mais bon, c'est aussi quelque chose dont on pourra reparler. Donc notre domaine sur la responsabilité, un domaine qui est la bureautique en fait. Hein. On va simplifier parce que faut faire de la bureautique évoluée, faut comprendre que il existe des styles, que enfin il faut structurer, utiliser des automatismes, c'est important aussi. Mais on essaye d'aller un peu plus loin pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Il y a l'organisation de la recherche d'information, donc rechercher, évaluer les résultats. Justement, c'est très important hein, d'évaluer les résultats parce que quand tu as 3 millions de réponse, tu vas pas lire les 3 millions de sites.
C'est sûr. Là,
je pense. Ni toi ni moi, on en serait capable. D'ailleurs.
Donc, je m'arrête. À partir de 1,5 million, je commence à fatiguer.
Oui, oui, voilà. Enfin, c'était une boutade hein, pour dire qu'évidemment, bien à sûr. Quoi ça sert que le moteur de recherche nous donne 3,5 millions de réponses. Ça n'a aucun sens, si ce n'est d'afficher le chiffre. Mmh. Et donc, on doit savoir organiser la veille informationnelle aussi. Hein, donc, toutes ces choses-là, ça fait partie d'un domaine. Puis, un dernier domaine qui est travailler en réseau, communiquer et collaborer. Donc, on apprend aux étudiants à travailler avec des outils de production collaboratifs, dans des espaces numériques de travail, dans des groupes de travail collaboratifs, participer à l'activité en groupe différencié, synchrone et asynchrone, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de théorie fondamentale informatique, mais on vient, dans le C2I niveau 1, on vient caresser suffisamment les fondements de l'informatique pour avoir un niveau de réflexion. Alors, c'est vrai que l'idéal serait que quand nos étudiants arrivent en ces deux niveaux-là, ils aient déjà fait un petit peu des DSN. Pour nous, ça serait formidable parce qu'on pourrait discuter de choses plus générales sans être obligé de reparler des détails.
Mais alors, ça, justement, on arrive à la question. Je pense qu'on a évoqué un petit peu la question de l'administration et de la manière dont se passe l'évolution des cursus dans ce domaine, mais on arrive à un autre sujet qui est très intéressant aussi, qui est celui des étudiants eux-mêmes et de la maîtrise qu'ils ont en arrivant. Alors, et de l'approche de l'affinité qu'ils ont avec l'informatique. Parce que c'est vrai que des gens comme nous, comme les gens qui écoutent cette émission, je pense, tout ce dont tu parles, c'est des choses qui plus ou moins nous paraissent évidentes, ce qui est la collaboration, la manière dont on peut interpréter les résultats de recherche, etc. Mais c'est vrai que pour nous, on le fait parce qu'on est passionné, mais il y a énormément de gens, enfin, c'est pas quelque chose qui s'acquiert naturellement et instinctivement. Donc c'est vrai que c'est important à enseigner aussi si ça n'a pas été fait. Donc effectivement, la question, comment est-ce que les étudiants se comportent?
Saint-Patrick, est-ce que tu crois vraiment que c'est vrai? Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui sont passionnés d'informatique? Qui ont appris l'informatique à l'école?
Non. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont appris en essayant, en bidouillant. Tu vois, comme moi.
Mais est-ce que c'est pas ça la vraie bonne façon d'apprendre l'informatique?
Alors ça, je sais pas. Mais le fait, ce que je constate, en tout cas, non, peut-être pas ce que je constate, mais mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne n'y arrivent pas. Et au bout d'un moment, oui, on peut délibérer pendant des heures en disant il faudrait que tout le monde aille bidouiller et regarder un petit peu sur Google, etc. soi-même. Mais dans les faits, quand tu arrives à ta première ou deuxième année à l'université et que tu sais toujours pas faire ces choses-là, mine de rien, les étudiants à l'université qui doivent se préparer à l'entrée dans le monde du travail, à un moment, il faut qu'ils sachent. Donc, s'ils savent pas, il faut leur apprendre. C'est un petit peu comme ça que je le vois.
Ouais, mais... Tu pourrais aussi voir. Enfin, on va rapidement arriver à des questions philosophiques sur le rôle de l'école et de l'éducation. Hein, mais tu pourrais te dire que, d'ailleurs, c'est mon approche, que le rôle d'un éducateur, c'est de donner la graine, de donner l'envie d'aller voir par soi-même.
C'est tout à fait possible aussi. Peut-être qu'on en débattra juste après. C'est un débat un peu plus philosophique, mais très intéressant également. Mais avant d'en arriver là, peut-être Jean-Yves, avant que je t'interrompe de manière très mal polie, comment ils sont tes étudiants alors? Est-ce qu'ils ont déjà la graine, qui a été plantée?
J'ai des étudiants en droit et en santé, hein, donc c'est pas des scientifiques. Enfin, en santé, ils sont un peu scientifiques, en droit, ils sont... Mais je pense qu'il y a une constante quand même, parce que David en a parlé, c'est que les plus dangereux sont ceux qui croient qu'ils savent. En fait, en gros, enfin, quand je dis dangereux, c'est pas dangereux, mais le plus gros problème, c'est ça, en fait. Ceux qui croient savoir, en fait, sont ce que moi j'appelle les digital naïves, c'est-à-dire qu'ils croient comprendre parce qu'ils savent utiliser, mais en fait, ils savent pas du tout comment ça marche et ils sont les premiers exposés au risque, en fait, d'aller déposer leurs données. Ceux qui donnent la même les mêmes informations dans tous les profils qu'ils créent et qui sont incapables de comprendre que ça va être coupé par le moindre logiciel de fouille de données, quoi.
Donc ils comprennent pas les conséquences de...
En fait, ils mettent la même date de naissance avec un pseudo et leur vrai nom et ils savent pas qu'en fait ça va servir à les recouper. Enfin, des tas de choses qui sont éléments qui a étudié les bases de données, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, les bases de données, elles vont être recroisées.
Tu veux dire qu'ils comprennent plus ou moins le fonctionnement des choses, ou du moins l'utilisation, mais ils comprennent pas le fonctionnement.
Ils comprennent pas le fonctionnement et de fait, ils ne comprennent pas les risques. Et en fait, j'en ai beaucoup qui, même dans C2I, trouvent qu'ils auraient pas dû venir, voire même ils décrochent, parce que de toute façon, ils disent, moi, je sais déjà m'en servir, j'ai pas besoin de savoir ça. Et le pire, c'est même ceux qui croient pas, en fait. Qui se disent pourquoi on me demande d'être responsable alors que de toute façon je vais pirater puis tout le monde s'en fout, je serai pas puni, qu'est-ce que ça peut me savoir de faire que dans ma Dropbox c'est n'importe où, sauf qu'ils n'ont pas d'idée que la Dropbox elle est hébergée dans un pays où les législations ne s'appliquent pas, etc. Donc en fait ils arrivent à utiliser et ils se demandent pourquoi ils devraient en savoir plus que d'utiliser. On a vraiment ce syndrome qui est là. Bon, sauf quelques-uns, bien sûr, hein, y a toujours des gens qui sont motivés. Moi, mes juristes, ils sont passionnés par le domaine des deux, souvent, hein, parce que c'est des juristes et c'est un domaine qu'on appelle juridique et déontologique. Mais pour un étudiant en chirurgie dentaire, par exemple, ça va pas forcément passionner. Ils voient même peut-être pas nécessairement le...
Ils comprennent pas l'importance du fait de comprendre la manière dont ça fonctionne. Ouais.
Oui. Excuse-moi, juste pour rebondir sur l'exemple de Dropbox, là. Et là, on est en plein dans cette histoire d'enseignement de l'informatique, pas seulement du numérique tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est que comment veux-tu comprendre comment fonctionne Dropbox si t'as pas compris ce que c'était qu'un client, ce que c'était qu'un serveur et ce que c'était qu'un réseau?
Oui, bien sûr.
Là, on est en plein dans la démonstration qu'il faut connaître toutes ces notions. Mmh. Pour pouvoir s'en servir de façon consciente.
Absolument. Mais c'est vraiment, j'en reviens à ma réflexion sur les maths et la physique. On apprend des fondamentaux de maths et de physique aujourd'hui, alors que finalement, concrètement, dans la vie réelle, à part faire des additions sans une calculatrice, ça va pas forcément nous servir beaucoup de pouvoir faire une dérivée ou un truc comme ça. Je peux comprendre l'argument de dire, mais il faut quand même le savoir. Et encore une fois, comment est-ce qu'on peut dire, c'est pas, si on admet que les fondamentaux des maths et de la physique sont importants, comment est-ce qu'on peut dire que les fondamentaux de l'informatique ne sont pas importants? Moi, ça me
dépasse. Parce que l'informatique, pour certains, c'est pas une science, c'est un dérivé des autres sciences, en fait.
Mais admettons même, je veux dire, c'est oui, pourquoi pas.
Il y a des analogies, quand... il y a la voiture, tu peux conduire sans savoir comment ça marche, etc. Ils trouvent plein d'exemples, hein, les gens.
Enfin,
l'exemple de la voiture, on la ressort tout le temps.
C'est marrant parce que même pour une voiture, il faut savoir changer un pneu pour avoir son permis.
Oui, alors nous on se défend, on explique qu'il faut aussi pas se tromper de carburant, qu'il faut savoir qu'il y a des bougies.
Oui, en même temps, c'est vrai que bref. Nicolas, tu m'as l'air d'être dans une position. Mais nos deux camarades de l'éducation nationale m'ont l'air un petit peu, comment dire. J'ai pas envie de dire dépité, mais je vais le dire quand même. Il y a beaucoup d'enthousiasme de leur côté. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de répondants du côté de l'administration et du côté des étudiants. Exceptions près. Ouais. Toi, tu plantes justement la graine de l'envie du savoir. Et en plus, tu as des gens qui sont déjà passionnés à la base. Donc, t'es dans un domaine qui est peut-être un petit peu différent, qui est celui d'une grande école, et d'étudiants qui, eux, viennent vers toi avec cette envie et ce besoin de connaissances pour leur métier. Comment ça se passe pour toi?
Ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, et je dois dire que par rapport à l'expérience qu'a décrite David ou Jean-Yves, moi j'ai pas du tout la même. Que ce soit du point de vue des étudiants, de l'administration, de mes collègues. Bon, alors évidemment, il y a toujours des gens qui traînent des pieds, mais de manière générale, et même les entreprises, parce que fatalement dans une grande école de commerce, on est beaucoup, beaucoup en contact avec les entreprises, elles viennent régulièrement nous solliciter pour pouvoir former nos étudiants. Fatalement à leurs produits, mais
Justement, je vais avant que tu continues, je vais poser la question qui fâche. Est-ce que vous parlez de logiciels libres à l'ESSEC?
Alors, et ça c'est quelque chose de très important que je voulais dire quand j'entendais mes deux collègues tout à l'heure. En fait, nous, on a une liberté énorme, que ça soit au niveau de l'école ou que ça soit au niveau des professeurs. Donc, on n'a pas de programme imposé au niveau de l'école. Alors, on a des rankings, des classements internationaux qui sont très importants pour nous. Mais jamais l'éducation nationale va venir nous dire « vous enseignez ceci ou cela ».
Bien sûr.
C'est la liberté académique, c'est laissé à la discrétion du professeur. Et donc, moi, par exemple, dans certains cours... Alors, attention, dans certains cours, je fais du R.
Tu fais du, pardon ?
Du R, donc qui est un logiciel...
Adobe
libre.
R, oui.
La lettre R.
La lettre R.
Ah, alors j'apprends quelque chose. De quoi s'agit-il?
C'est un logiciel libre, c'est de l'open source qui permet de faire des analyses statistiques très 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 poussées en fait.
D'accord.
C'est open source.
Ouais, tout à fait. Et donc, c'est pas avec tous les étudiants. Mais d'un autre côté, le fait est que l'équivalent de R qui serait commercial, par exemple, ce serait. Statistica ou SAS, qui est encore un programme beaucoup plus important, pour un cours qui sera un tronc commun, qui sera pour tous les étudiants. Je vais beaucoup plus parler de SAS parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils seront exposés à un programme de type SAS qu'à R, qui est en fait un truc beaucoup plus pointu. On a la liberté et chaque prof fait un peu ce qu'il veut. Fatalement, on se coordonne, on explique entre nous ce qu'on fait, mais on n'a pas du tout... moi, j'ai pas du tout ce sentiment d'avoir... si j'ai des lobbies... c'est en fait, par exemple, un grand éditeur de logiciels informatiques qui va venir me voir et qui dit, voilà, j'aimerais bien, Nicolas, venir dans ton cours pour présenter ma suite de logiciels. Mais ça va pas plus loin que ça. Et moi, je décide de l'inviter ou pas si j'ai envie, si je pense que c'est une bonne idée que les étudiants seront exposés à ça. Et attention, fatalement, j'essaie d'avoir une forme de honnêteté intellectuelle auprès d'eux. Si lui commence à trop vendre son tapis, bah, je dirais après aux étudiants, attention, quand il vous dit ça, il faut savoir que c'est vrai en partie, mais il y a aussi d'autres alternatives qui sont très bien. Mais donc moi, j'ai pas du tout. Alors, du point de vue des étudiants, en fait, il y a trois niveaux hein, dans les étudiants qu'on a. Déjà, on a des étudiants de tout type de background. On a des étudiants littéraires, on a des étudiants qui ont fait des prépas à école de commerce. On a un double diplôme avec Centrale, hein, donc parfois ou avec l'EMSAE. Donc on a des étudiants qui sont où il faut s'accrocher hein, quand ils viennent nous parler d'algorithmique. Enfin, moi, ça va.
Donc, c'est-à-dire que toi, parfois, t'es un petit peu largué quand t'es.
Ouais, mais enfin bon, heureusement j'ai 10, 15, 20 ans de plus qu'eux, donc je peux m'en sortir. 15 ans de plus qu'eux, donc je peux m'en sortir, mais c'est uniquement grâce à ça que je peux me rattraper aux branches, quoi. Donc et en plus, comme il y en a qui ont déjà beaucoup voyagé.
Oula, on perd Nicolas.
On a perdu.
Qu'est-ce
Nicolas.
Qui se passe? Ça bon, on a un petit peu, oui, il s'ilonne un petit peu. On a perdu Nicolas. On va attendre qu'il revienne. J'espère.
Allô
que ça... Oui, ah, ouais. L'heure voilà.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a des étudiants très divers. Et nous, en fait, on va parler aux étudiants en termes d'informatique à trois niveaux. Pour les étudiants qui ne seront appelés à utiliser l'informatique en tant qu'utilisateurs, on va pas nécessairement les mettre dans de l'algorithmique. On va leur parler de bureautique, d'Excel, de choses comme ça. À tous, de toute façon, puisqu'ils ont vocation à être managers, on va leur expliquer comment l'informatique est utilisée en entreprise et les enjeux dont parlait Jean-Yves tout à l'heure sur la confidentialité des données, sur la sécurité des serveurs, des choses comme ça. Ça va être des sujets qui vont être abordés parce que il faut qu'ils soient au courant de ce qui risque de se passer. Et pour certains d'entre eux, par exemple ceux qui voudront créer leur boîte parce qu'ils ont envie de lancer une start-up dans le web ou des choses comme ça, ils vont aller jusqu'à programmer. Donc on peut se permettre un peu d'avoir, et d'ailleurs c'est une des spécificités de l'ESSEC, hein, c'est qu'il y a un côté très fort à la carte dans ce qu'on leur propose. Mais on considère qu'il y a une formation de base que tout le monde doit avoir, mais ça ne va pas jusqu'à la programmation.
Est-ce que tu as aussi, enfin peut-être que là on est un petit peu loin de ces domaines-là, mais est-ce que tu as de l'explication de comment marche un ordinateur, qu'est-ce que c'est qu'un réseau, qu'est-ce que c'est qu'un serveur, etc.
Alors sur le côté architecture, oui. Ils ont un fonda en informatique où ils vont voir ce que c'est qu'un serveur, ce que c'est qu'un, par exemple, du software as a service, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux. Mais on va vraiment s'arrêter à ce qu'on pense qu'un manager doit savoir.
D'accord.
Donc, par exemple, beaucoup de gens, alors on n'a pas une culture Silicon Valley, hein, donc on pense pas que le manager doit savoir coder. Mais on pense qu'il doit savoir que, par exemple, TCP/IP, c'est un protocole qui est sécurisé, enfin qui est pas sécurisé en fait.
D'accord.
Et donc que voilà, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il fait. Et que par exemple, les problématiques qu'on a eu avec la MSC récemment, c'est des choses que nous on répète en cours depuis des années, quoi.
Bien sûr. Donc vous avez une approche, bah logiquement puisque c'est une école de commerce, une approche un petit peu business. Et qu'est-ce qui est utile dans le monde du travail pour les rôles qu'ils seront amenés à tenir.
En sachant que certains vont aller jusqu'à la programmation. Puisque d'accord. Certains veulent lancer leur start-up. Et là,
oui, là on a
beaucoup mettre les mains dans le cambouis.
D'accord. Mais alors, dites-moi, messieurs, moi j'écoute Nicolas, là, pendant 5 minutes, et j'ai l'impression qu'il nous décrit une situation qui est assez, assez idéale dans son environnement d'enseignement au quotidien. C'est une chose qui vous fait envie. Alors on pourrait partir dans le débat éternel entre l'université et les grandes écoles.
Je peux directement te corriger, Patrick, par rapport à ça, parce que quand j'entends les étudiants, eux ils se plaignent de beaucoup de choses. Hein.
Alors bah tiens, d'accord. Alors parlons de ce sujet avant de renvoyer la balle vers. C'est pas du tout le but. Hein, l'idée n'est pas de faire éducation nationale contre grandes écoles, hein, mais il y a un profil qui se détache quand même. Mais pour parler des étudiants, toi, ton quotidien, Nicolas, avec les étudiants, c'est quoi? Parce que l'impression que j'ai eue là, c'est que eux, ils sont enthousiastes, ils y vont, c'est quelque chose qu'ils veulent apprendre, etc.
Bon, c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, la vérité, c'est que tous les profs n'ont pas la même conscience de l'importance de la techno. Il y a moi, par exemple, j'ai un collègue qui est loin d'être un digital native, hein, qui a commencé sa carrière dans les années 60, qui m'a dit ouais, mais enfin bon, les réseaux sociaux, qui s'intéresse, la data, qu'est-ce que c'est, ça va passer de mode, des choses comme ça. Et bon, là, voilà, fatalement, quand il va donner des cours, ça va être quelque chose de complètement différent. L'avantage d'avoir un système très décentralisé comme on l'a ou très adaptatif, c'est que certains profs peuvent aller très loin dans ce qu'ils veulent faire. Le désavantage, c'est que d'autres profs qui sont nommés et qui sont là depuis très longtemps ne vont pas nécessairement avoir ces sujets. Mmh. Maintenant, l'avantage qu'on a chez nous, c'est que les étudiants peuvent choisir leurs profs.
D'accord.
Et donc, le marché a toujours raison, entre guillemets, oui. dans le sens où si un prof fait quelque chose qui n'est pas considéré comme pas intéressant, il n'aura pas d'élèves.
D'accord. Mais alors, est-ce que tu es justement sujet à ce genre de choses ? Tu parlais de classement tout à l'heure et du choix des élèves, par exemple. Est-ce que les élèves vous notent, par exemple ? Je sais que c'est un grand, grand débat.
Oui.
D'accord. Donc,
depuis très longtemps, et on a même cette année un prix du meilleur prof. Donc, les étudiants... Ah,
c'est l'employé du mois version prof.
Quoi. L'employé de l'année.
D'accord. Et c'est pas quelque chose qui peut être par certains... Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On avait parlé de l'indépendance des universités déjà à l'époque dans cette émission. J'aurais tendance à penser que c'est plutôt une chose positive, mais est-ce que ça n'a pas des effets pervers aussi pour aller au fond de la...
Pervers. Alors, moi, je pense que...
Tu dis, pardon, énormément d'effets pervers.
Oui, énormément d'effets pervers, mais je pense que... Le remède serait pire que le mal. Donc, en fait, l'effet pervers, c'est quelque chose qui est très connu, qui est ce qu'on appelle le grade inflation, qui fait que tous les profs vont avoir tendance à mieux noter les étudiants, de peur d'avoir de mauvaises évaluations. Mmh. Et donc, on se retrouve avec des notes comme aux États-Unis où tout le monde a 16.
Oui.
Bon, j'exagère un peu, ce qui n'est pas le cas. Mais il suffit que les profs s'arrangent entre eux, hein, qui disent non, on a une consigne, on peut pas faire ça, etc. Et on vérifie entre collègues qu'on ne fait pas. Mais si c'est trop décentralisé, il y a ce risque-là, il ne faut pas se voiler la face. Et ça va aussi amener à des comportements qui peuvent être vus comme plus démagogiques. Maintenant, ne pas le faire, ça amène à des gens qui ne se remettent pas en question, etc.
D'accord. Donc, Alors justement, bon, revenons un petit peu vers Jean-Yves et David. J'ai l'impression qu'il y a quand même le ne serait-ce que cette question d'avoir plus d'indépendance finalement. Il y a des programmes qui sont établis encore aujourd'hui de manière un petit peu plus centralisée dans l'éducation nationale. Est-ce que et là on va se commencer à parler peut-être de ce qu'on aimerait voir arriver à l'avenir. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu changer les choses de l'intérieur finalement par un grassroots, un effort de grassroots, comment ça se dit en français, de à la base de la chose. Si vous aviez pu vous-même avoir, je sais pas moi, une heure ou deux heures par semaine de libre, où vous auriez pu faire donner des enseignements que vous vouliez donner.
Alors moi, je vais te dire tout de suite, c'est même mieux que ça, puisque moi, je le fais déjà.
Donc,
je vais un petit peu défendre l'éducation nationale, parce que... Mais si tu veux, en gros, moi, en seconde, déjà, j'ai ce qu'on appelle dans notre jargon un article 34, c'est-à-dire une liberté pédagogique. Et moi, une heure par semaine, avec les secondes, je leur fais faire du développement web.
D'accord.
Donc HTML5, JavaScript, CSS, ils codent des jeux HTML5. Mmh. Là, ils vont commencer à coder des applications pour Firefox OS.
D'accord.
Tu vois, plein de choses comme ça qui sont vraiment.
Ce qui est vraiment le développement web, je pense que c'est le meilleur compromis entre vrai développement et choses qui sont utiles et intéressantes tout de suite, parce que c'est suffisamment simple pour être accessible et en même temps il y a un petit peu de vraies prémices de code, quoi. Donc.
Et donc pour répondre à ta question, l'éducation nationale me laisse faire et je suis même payé.
D'accord.
Le faire.
Donc il y a quand même un petit peu de ça.
Voilà, localement, c'est faisable.
D'accord, mais vous nous disiez quand même qu'il y avait une certaine inertie. Enfin, on en a parlé pendant la première partie de l'émission. C'est une chose dont vous souffrez un petit peu, cette question de l'inertie et du changement qui est assez lent et assez... c'est un énorme navire à naviguer. Jean-Yves, tu pourras peut-être nous dire ce que tu penses aussi de la décentralisation et de l'autonomie d'une manière générale, mais... Pour élargir un petit peu la question, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver au-delà que du fait que tout à coup, du jour au lendemain, le ministère se transforme et vous autorise, amène une plus grande application de l'éducation de l'informatique dans l'éducation nationale en général, quelles sont les évolutions positives que vous espérez?
Ce qu'on demande dans le groupe éthique, hein, ce qu'on demande, c'est l'enseignement informatique pour tous. En fait, qui est un volume horaire et un référentiel depuis l'école maternelle jusqu'au lycée, avec des concepts fondamentaux en informatique. Et c'est parce que depuis la nuit des temps, notamment le plan informatique pour tous en 1986, il y a une dominante un petit peu pédagogiste qui dit que si tu utilises un outil informatique au travers de tes apprentissages dans d'autres disciplines, globalement ça va aller, on va découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec, etc. Donc, notamment on peut l'intégrer dans le programme de telle ou telle discipline. Alors on va pas en parler ce soir parce que c'est pas le sujet, mais on pourrait en mettre dans la discipline technologie au collège.
C'est toujours la troisième ou quatrième roue du carrosse, comme le disait
il y a pas de reconnaissance dans le secondaire de l'existence de la discipline informatique. En gros, il n'y a pas de CAPES informatique, il n'y a pas d'agrégation d'informatique dans
le... Mais alors, excuse-moi, pardon.
C'est ça qu'on veut, en fait.
D'accord, ça Jean-Yves, je l'entends bien, et je pense que tout le monde serait d'accord sur le fait que c'est pour nous, amateurs de ce genre de domaine, une évidence que c'est quelque chose qu'il faudrait. J'en parlais tout à l'heure avec prenons 10% des profs de ci, 10% des profs de là, et on fait des profs d'informatique. Alors, est-ce que c'est réaliste, cet espoir?
De couper, en fait, c'est pas du tout irréaliste. Le problème, c'est que les décideurs, on peut appeler aussi nos élites, hein, souvent ça revient dans les journaux, nos décideurs, ils n'ont pas de conscience de la science informatique parce que de toute façon elle n'existait pas avant, et le problème ne se posait même pas. Donc ils n'en ont une vision que par les publicités Apple. Tu comprends bien que est-ce que tu as déjà entendu un homme politique dire autre chose qu'un iPad?
À part François Fillon, c'est vrai que ça c'est pas souvent.
Ils disent tous, ils savent pas que c'est une tablette.
Mais alors, ça veut dire que c'est un problème finalement générationnel. Il faut que, comme le disait, tu parlais d'Apple, comme le disait Steve Jobs, il faut que tout c'est la mort qui gérera ce problème. C'est-à-dire que tous les vieux vont finir par disparaître.
Avec un certain cynisme, on pourrait le dire comme ça.
On en a encore pour une quinzaine, une vingtaine d'années avant que des gens de notre génération, de cette génération qui a connu le ZX80, arrivent à des postes de responsabilité.
Justement, non, parce que en fait, les lobbies voulant empêcher l'enseignement de l'informatique fondamentale, on est en train de fabriquer des Harry Potter de l'informatique qui, en fait, sauront utiliser les outils, mais ne sauront pas comment ça marche. Et à la limite, moi, je constate parmi les étudiants que ces dernières années, j'ai des étudiants qui, croyant savoir comment ça fonctionne, sont encore moins capables de comprendre comment ça fonctionne, alors qu'il y a une dizaine d'années, mes étudiants étaient bien conscients qu'ils savaient pas comment ça fonctionnait, et ils avaient envie de regarder un petit peu comment ça marchait. On a une espèce de retour de bâton, et il faudra une discipline qui viendra d'en haut, à mon avis, pour qu'on puisse faire de l'informatique à tout le monde.
Donc le retour... Pardon, vas-y Nicolas.
Oui, non, et je voulais juste rajouter à ça, je pense que ça sera pas nécessairement un problème de génération. Si on prend l'analogie avec, par exemple, l'écologie, et qu'est-ce qui a fait que l'écologie, d'un seul coup, est devenue un sujet important? C'est quand il y a eu des catastrophes écologiques. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que la nourriture, on a commencé à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est qu'on se rendait compte qu'il y avait des scandales alimentaires. Et je pense que, par exemple, ce qui se passe maintenant avec la MSA va mettre ce sujet-là sur la place publique. Et c'est toi, Henri, dans une autre émission, tu disais contactez vos sénateurs et dites-leur que voilà comment il faut voter, etc. Le jour où les sénateurs et les représentants au Parlement constateront que c'est un vrai sujet de société qui est important pour les gens, ils en parleront et ils feront les lois qui leur permettront de gagner les élections.
C'est sûr que là, en l'occurrence, la question de prix m'a ramené tous ces sujets sur le devant de la table. Est-ce que vous avez vu, question à vous trois, est-ce que ça a eu une influence sur les discussions que vous avez, peut-être avec votre administration, voire même avec les étudiants, parce que nous, évidemment, on est plongés dans cette histoire depuis le début, est-ce que ça a éveillé une certaine curiosité chez vos collègues et voire chez vos étudiants à tous les trois, ces questions d'espionnage?
Moi, énormément. pour moi énormément. En tout cas.
D'accord. Nicolas, donc pour toi, l'ESSEC.
Oui, parce que moi, je fais beaucoup de data-driven decisions, etc. Et donc moi, maintenant, en fait, c'est la question même avant même que je commence à parler des techniques pour utiliser la data, les gens me parlent d'éthique et me parlent de protection de la vie privée. Donc.
D'accord. Jean-Yves, pour toi.
Avec les étudiants, j'en parlais depuis longtemps. Donc en fait, ils constatent que là, ils ont un exemple concret dans la vie de tous les jours, mais ça fait longtemps qu'on explique.
En revanche, au niveau des collègues, réactifs, en fait,
pas plus ou moins, non.
Ouais, non, d'accord.
Mais ils étaient déjà conscients du problème.
D'accord.
Ta question, elle m'amène à une réflexion, c'est qu'au niveau des collègues, c'est la catastrophe. En fait, pour renier un peu le fait qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils disent, je suis très content d'utiliser les outils Google et la réponse qu'on te fait tout le temps, c'est ça marche bien. En fait, le problème, il est juste qu'ils n'ont pas besoin d'en savoir plus que ça marche bien.
Ouais, ouais. Et ils comprennent pas.
Ils comprennent pas les risques.
D'accord. C'est terrifiant.
Et alors qu'un étudiant, comme disait le collègue Nicolas, t'as 15 ans ou 20 ans de plus que lui, donc tu peux encore ton collègue qui a le même âge que toi, ou le même diplôme, ou le même niveau, lui, il va rester sur sa position.
Ouais,
c'est relativement catastrophique à certains endroits. Quand on connaît ce que fait signer Google sur l'appropriation des données qu'on leur
met.
Ça, c'est vraiment. Un gros danger.
Ouais. Pour moi, enfin, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé dans l'émission, on l'évoque souvent. Si vous choisissez d'utiliser des outils comme Google ou Facebook, pourquoi pas? Chacun est libre de faire ce qu'il veut et la valeur finalement de tous ces services est grande. Si pour vous, il vous rend suffisamment de services pour que vous soyez prêt à les laisser utiliser vos données privées comme ils disent qu'ils veulent les utiliser. Pourquoi pas? C'est un choix qui peut se comprendre et c'est un choix que font beaucoup de gens, mais il faut le comprendre. Et c'est ça.
Comme pour les logiciels propriétaires.
Exactement.
En fait. Les formats propriétaires.
Tout à fait. Ouais, il faut comprendre ce qui se passe. Ouais.
L'utilisateur va dire, de toute façon, PowerPoint, c'est plus facile. Alors qu'en fait, c'est juste un problème de déconditionnement. Mais
je sais pas si j'irai jusque là, mais
il dit que c'est plus facile parce que quand tu l'habitude d'utiliser une autre chose, tu considères que c'est plus facile.
Disons que sur l'ergonomie entre LibreOffice et certains autres logiciels, moi je suis quand même
ouais.
Mais bon, ceci dit, là encore, il y a du pour et du contre, et c'est des sujets qu'il est important de traiter.
Voilà, c'est sur ça. Il faut comprendre aussi les inconvénients. En fait, c'est ça. Tu viens de citer un avantage, et moi j'avais cité peut-être mal à propos celui-là, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a des avantages et des inconvénients.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, la personne qui dit c'est plus facile, elle ne pense qu'aux avantages.
Tout à fait. Non, là on est tout à fait d'accord. Et le plus alarmant dans cette histoire, c'est qu'effectivement tu as des collègues, toi Jean-Yves, et je suis sûr que c'est le cas pour les deux autres aussi, qui eux ne veulent pas vraiment chercher à savoir ce qu'il y a derrière pour des gens qui sont qui sont chargés de l'éducation de nos enfants ou des enfants des autres, parce que moi j'en ai pas encore, c'est un peu inquiétant. David, tu es très très silencieux, très très calme.
Juste une petite anecdote pour te faire comprendre le niveau de compréhension des élèves. Alors là, je te parle pas de ceux avec qui je fais de l'informatique. Hein. On en discutait en physique. Et moi, j'ai des élèves qui, pour eux, Internet, c'est leur box. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent pas que ça sort de la box.
Non, mais pas concrètement, tu veux dire.
Ah, non.
Ils pensent que tout est dans leur box?
Oui, quand je leur ai expliqué qu'à chaque fois qu'ils faisaient une requête sur Google, par exemple, ça faisait un voyage transatlantique aller-retour jusqu'au serveur de Google, ils sont tombés des nues. Alors, NSA et compagnie, je veux dire, ils en sont bien loin.
Bon, alors, ok, là, tu viens de me faire exploser le cerveau.
Juste une autre petite anecdote pour aller dans le sens de David. En fait, vous avez remarqué, à la radio, maintenant, on ne parle plus que des écoutes téléphoniques. Parce qu'en fait, le fait même d'espionner des trames de données, de toute façon, ça serait hors de portée du commun des mortels.
On revient à mon constat, alarmiste du début. Finalement, on y revient, même s'il y a eu des lueurs d'espoir que vous m'avez données au cours de cette émission, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire alors concrètement, Jean-Yves? Tu me disais oui, ça serait bien qu'on enseigne l'informatique partout dans l'enseignement, de tu disais de la maternelle, mais peut-être que c'est un peu beaucoup, mais de la maternelle jusqu'au bac. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout ça serait bien, mais alors d'une manière plus large, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Nous, moi, de mon petit côté, j'essaye d'avoir mon émission Le Rendez-vous Tech et de parler tech et de simplifier la chose.
Les parents d'élèves. Pour les élus.
Mais oui, je sais pas, mais les parents d'élèves, les élus, c'est là encore, c'est des vœux pieux, quoi. Il faudrait que les parents d'élèves et en parlent à leurs élèves, mais si eux déjà ils savent pas, on peut pas s'en sortir de cette histoire.
Moi je crois beaucoup.
Vas-y, David.
À des initiatives que je qualifierais de locales. Alors, je vais pas reparler de ce que je fais moi, mais il y a pas que moi. Mais j'ai de plus en plus de doutes et on en a déjà discuté d'ailleurs avec Jean-Yves et d'autres sur la liste éthique. Moi personnellement, j'ai de plus en plus de doutes sur le fait que les changements viendront d'en haut. Moi je me demande s'il ne faut pas qu'ils viennent d'en bas. Et il y a plein d'initiatives. Je sais pas si tu connais, Patrick, sur ce qui s'appelle simplon.co.
Non, ça ne dit rien du tout.
T'en as jamais entendu parler ?
Non.
Eh ben c'est une entreprise, parce que malgré tout c'est une entreprise qui est basée à Montreuil, et ils prennent des jeunes souvent un petit peu en difficulté, ils les forment en 6 mois au développement, et puis après ces jeunes là ils vont créer des startups, ils vont faire des choses comme ça. Et moi je pense que on changera les mentalités et on obligera nos élus à changer par des initiatives comme ça. Je crois que le changement viendra d'en bas.
Je suis tout à fait d'accord avec David, en fait, je veux dire, parce que, souvenez-vous, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé mon histoire personnelle. Ma mère était prof de maths dans un lycée, et elle a décidé, sans accord explicite de sa hiérarchie, de commencer à donner des cours d'informatique dans sa classe. Et petit à petit, ça a eu beaucoup de succès, et fatalement, par la suite, les directeurs et les politiciens se sont emparés de ça pour dire, regardez l'initiative qu'on a fait, c'est vachement bien, ça vient de nous. Mais voilà, je pense qu'il faudrait faire plus confiance aux enseignants. Et comme j'expliquais dans l'exemple de l'ESSEC, c'est parce que c'est décentralisé. Je pense que il faut faire confiance. Enfin, on a quand même des gens ici qui ont fait le choix de vie d'enseigner aux autres. Ouais. Donc c'est des gens en général qui sont généreux, qui ont des choses à dire, donc faisons leur confiance.
Donc en fait, finalement, on revient, si je comprends bien, et vous me direz si je me trompe, mais on revient à cette question qu'on a évoquée à la fin de de ce que disait Nicolas. Je l'ai peut-être maladroitement présenté comme les grandes écoles ont plus d'autonomie et donc ils réussissent à faire ces choses-là. C'est peut-être plus difficile dans l'éducation nationale. Tu m'as dit, David, qu'effectivement c'était tout à fait possible. Mais donc, si on quitte des idéaux peut-être un petit peu trop idéalistes et si on essaye de penser à ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout de suite ou demain pour favoriser ce sujet qui est incroyablement important, vous voulez dire, vous êtes tous finalement d'accord pour dire que l'initiative individuelle des enseignants est essentielle. C'est ce que je comprends. C'est bien le cas.
Il y a un clair problème sur l'innovation pédagogique par sa reconnaissance par les institutions. Mais je pense que c'est pas le sujet de l'émission.
Mais
effectivement, l'innovation pédagogique n'a jamais été très bien vue par les différentes hiérarchies pour des tas de raisons. Mais ça, c'est historique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un bateau qui est très lourd à faire tourner. Enfin, toutes les métaphores animalières
et navales.
Et navales. Donc, en fait, c'est vrai. Le problème, c'est que si tu raisonnes en question identique pour tous, laïque et républicaine et la même, en fait, il faut bien un moment que les programmes soient définis. Donc, effectivement, il faut faire des initiatives locales, avec parfois quand même certains risques, parce que les inspecteurs sont pas toujours assez souples, etc. Mais globalement, c'est vrai qu'on peut faire des choses. Par contre,
est-ce que tu veux dire que un prof qui aurait lancé un enseignement qui n'est pas cadré par le
Oui, j'ai eu le tour. Ma première année d'enseignement en technologie, mon IPR, qui est maintenant, je pense, en retraite, m'a dit...
Ton IPR, excuse-moi.
Inspectrice pédagogique régionale. Elle m'a fait venir dans son bureau en me disant, j'étais stagiaire, monsieur Jeannès, en technologie, on fera jamais d'informatique. De toute façon, on fera jamais d'informatique. Donc,
il fallait plus en faire. D'accord, mais t'as pas eu un problème. Je veux dire, ils t'ont pas mis une sanction ou un truc comme
non,
ça.
Non, mais c'était l'étape juste avant.
Ah oui, d'accord.
En fait, il fallait pas faire d'informatique, oui. C'était pas le sujet. Donc,
d'accord. Bon, et pour expliquer un petit peu la chose, pour pas faire passer les inspecteurs pour des ogres, quand on fait le choix d'avoir une école républicaine qui est la même pour tous, il faut aussi que, voilà. dans l'idée, il faut que tout le monde ait la même éducation. On peut voilà. pas commencer à proposer une éducation différente en fonction voilà. de la région, du truc. Mais j'allais dire quelque chose et puis j'ai oublié. Pardon. Donc fini Jean-Yves du coup.
Oui, donc le fait que enfin moi ce que j'aimerais c'est qu'on valorise effectivement les initiatives, mais qu'à un moment, et c'est le travail du groupe éthique en fait, c'est un programme comme là l'ISN, mais qui soit à la fois au collège, à l'école primaire, au lycée, un vrai programme avec un vrai référentiel informatique. D'accord. Qui vienne d'en haut quand même à un moment. Quoi. À un moment, il faut.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah là,
d'une manière générale, l'innovation, que ça soit dans les entreprises ou d'une manière générale, l'innovation part souvent de la base. C'est rarement top-down et c'est souvent bottom-up, comme ça a été dit précédemment.
Bah, peut-être qu'effectivement, il y a une autre solution. Là, on parle beaucoup des profs eux-mêmes, mais peut-être que les profs ont besoin d'aide pour montrer à leur administration à quel point cet enjeu est important. Et là, on revient à ce que tu évoquais, Nicolas. L'idée de contacter ces députés ou ces sénateurs et de leur faire part de nos préoccupations. C'est quelque chose qui est... On l'avait évoqué au moment de SOPA et de ces sujets de... Pardon, excusez-moi, David a décroché, donc je le rappelle. On évoquait l'importance de contacter ces élus pour ces sujets-là.
Allô ?
Oui, tu es revenu, David, c'est bon.
Ouais, je vous entendais plus, hein.
Oui, ça avait décroché, mais tu es revenu. Tu nous es revenu, tout va bien. Donc peut-être qu'il est important aussi de mettre nous en tant que citoyens. Tu nous entends pas, d'accord. Bah écoute, nous on t'entend. Je vais raccrocher, donc rappeler. Donc nous en tant que citoyens, nous intéresser à ces questions. Pourquoi est-ce que la question de l'éducation de l'informatique n'est jamais sur les programmes, par exemple? Tu parlais très justement, Nicolas, tout à l'heure, de l'écologie. C'est devenu un sujet important au moment où les gens ont commencé à s'en soucier. Donc peut-être que c'est... Alors là, en même temps, je m'entends parler et je me dis, est-ce que l'informatique deviendra un jour, enfin l'éducation même de l'informatique, mais l'informatique en général, deviendra un jour un enjeu politique important?
Bah, ça l'est aujourd'hui, hein.
Oui, t'as raison.
Avec la NSA, ça l'a été ces derniers jours.
On peut pas faire mieux. Hein.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais alors, est-ce que vous pensez que pour la prochaine campagne des présidentielles, parce que finalement c'est celle-là qui est vraiment importante, ça sera un sujet qui sera au cœur des débats?
Non.
L'informatique en général?
Non, les gens, it's the economy, stupid, comme disait.
Oui, donc.
comme on dit dans les présidentielles américaines. Hein, donc, je pense que ça sera jamais vraiment une priorité. Mais les mathématiques et la littérature n'est pas non plus une priorité. Donc, ce qu'il faudrait, c'est juste de sensibiliser ceux qui, effectivement, sont. Parce que, de nouveau, pour prendre l'exemple de l'ESSEC, la grande chance que moi j'ai, c'est d'avoir une direction générale à l'ESSEC qui est très, très sensible au numérique. Mon directeur général est sur Twitter, tweet régulièrement, ouais. Donc voilà.
Mais finalement, finalement, ça tient à tellement peu de choses. Il y a des gens qui sont au poste, qui vont décider des choses, qui sont au fait de ce genre de sujet, très rapidement, les choses peuvent évoluer. Je suis sûr que un proviseur, par exemple, de lycée comprend Twitter, Facebook, il est sur, il regarde ses trucs sur YouTube et il est sur Twitter, tout de suite, il va regarder ce genre d'initiative avec un œil beaucoup plus favorable que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce genre de choses. Donc, peut-être que à terme, ça arrivera. Moi, d'ici là, j'ai une suggestion absolument sans faille à faire. Il faut absolument que tous les étudiants de France et de Navarre et les responsables d'administration se mettent à écouter le rendez-vous tech. À mon avis, en un an...
La conclusion qui s'impose.
Bon, c'est vrai qu'on s'approche un petit peu vers la conclusion. Il y aura énormément, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on est à plus de d'une heure, presque 1h20 d'émission. Avant de nous quitter, je voudrais quand même donner à chacun d'entre vous l'occasion de nous dire un petit mot de conclusion. Si vous avez un message à faire passer ou je sais pas, une conclusion à donner, on va comme au départ commencer par David. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux nous dire, un message à nous faire passer?
C'est un exemple que je prends souvent parce qu'on a commencé avec le ZX80, autant terminer avec le ZX80. Notre génération, quelque part, elle a eu une chance, c'est que avec ces machines-là, on pouvait faire qu'une chose, c'est apprendre à programmer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces ordinateurs? On a appris à programmer. Aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent faire tellement d'autres choses que la programmation, c'est plus quelque chose de forcément évident. Et c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui d'apprendre à programmer que ça l'était il y a 20 ou 30 ans. Paradoxalement, mais... Mmh. Et c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Un peu.
Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre à programmer? Moi, ça serait ma question. Est-ce que la programmation est vraiment le cœur du problème, là? Il y a... bien sûr, c'est un sujet important... Mais est-ce que simplement une formation aux fondamentaux de l'informatique, tu en parlais d'ailleurs de David tout à l'heure, savoir qu'il y a un réseau derrière ta box internet, savoir où sont stockées les données, les conséquences de des conditions d'utilisateur, des conditions d'utilisation, comme le disait Jean-Yves, est-ce que ça c'est pas plus important que l'apprentissage de la programmation?
Si, mais ça va avec. Et puis en plus, même sans parler de ça, je trouve que la programmation est une activité qui intellectuellement est super enrichissante.
Ouais.
C'est une des seules disciplines, parce que j'emploie exprès le mot, si jamais on enseignait vraiment la programmation, c'est vraiment une des seules disciplines où tu ferais vraiment appel à la créativité des élèves. Et prends toutes les disciplines, et je sais pas si aujourd'hui on a beaucoup, on fait vraiment appel à la créativité des élèves. Et quand tu codes, tu fais appel à ta créativité. Pour moi, le code, ça relève quasiment d'un art. Tu vois, dans le sens créatif.
Si je peux juste dire un truc, pour moi, le code, c'est aussi comme le latin. Souvent, les profs de latin argumentent pour le latin en disant que ça vous apprend une certaine forme de logique. Il n'y a pas de doute que le code, c'est la même chose. Et en plus, ça permet de créer. Donc, pour moi, apprendre à programmer est même supérieur au latin dans une formation.
D'accord. OK, très bien. Ben, merci, David et Nicolas. Vas-y, Jean-Yves.
J'avais pas répondu parce que je vais dire mon petit mot sur le code. En fait, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce que je voudrais rajouter, c'est juste que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a quelqu'un qui a codé, en fait, parce qu'on en est à un point où les utilisateurs n'ont peut-être même plus l'idée qu'il y a un être humain qui a agi derrière la machine.
Et on en revient à Harry Potter, là, oui.
Oui, bah, c'est ce que je voulais dire. Hein. Donc, en fait, en amont, moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde, hein, les citoyens, en fait, pour exercer leur citoyenneté, aient compris qu'il y a quelqu'un qui a à la banque régulièrement ça marche pas quand j'arrive. Et qu'est-ce qu'il dit le banquier, c'est l'informatique. Oui. Comme s'il y avait une espèce d'esprit supérieur. Moi j'invite vraiment tout le monde à lire 1984 et le film qui est la version postmoderniste de 84 qui s'appelle Brasil, parce que on a vraiment Terry Gilliam, tu vois, voilà, c'est ma bibliographie pour mes étudiants, hein, quand même. 84 et Brasil,
c'est un peu déprimant quand même comme
non, parce qu'en fait à la fin de Brasil ça ouvre des perspectives positives, quoi.
D'accord. Enfin,
ça dépend des versions,
alors,
mais je pense que c'est important, c'est d'avoir compris que il y a de l'humain et de la effectivement de la créativité. Alors on pourra en discuter après, de savoir programmer l'algorithmique, etc., mais au moins comprendre que c'est pas quelque chose qui fonctionne ab nihilo, en fait.
D'accord.
Et si je peux juste rajouter une dernière chose,
j'allais venir à toi, Nicolas, mais David, tu voulais dire quelque chose?
Juste pour cette histoire de code, en ce moment, c'est vrai qu'on tape souvent sur les Américains, mais il faut savoir qu'il y a une initiative qui se fait aux États-Unis que je trouve absolument géniale, qui s'appelle code.org, et c'est soutenu par des grands noms de la tech, Zuckerberg, Bill Gates et compagnie. Et l'idée, c'est, moi je vais participer avec mes élèves là, c'est qu'il pendant une semaine au mois de décembre, il y a plus de 10 millions d'élèves partout dans le monde qui écrivent du code. Et je, bon, voilà, donc aux États-Unis, il y a un vrai engouement pour ça, et pour une fois, ça serait bien qu'on soit pas à la traîne, quoi.
C'est vrai que ce dont tu parles, c'est quelque chose qui est presque du domaine de l'affectif pour ces gens-là. On parle de Zuckerberg, etc., qui disait, c'est marrant, qui disait à peu près ce que vous disiez il y a quelques minutes ou une heure. On a commencé en codant notre vie informatique. Et eux aussi, ils se souviennent avec émotion de ce genre de choses, et ils veulent le transmettre aux étudiants aujourd'hui. Et eux, ils le font avec ces méthodes-là qui sont effectivement très intéressantes. Mais il y a cette même nostalgie du code de l'informatique, enfin de la programmation, qui est ce avec quoi ils ont commencé et qu'ils ne retrouvent plus aujourd'hui chez les jeunes. C'est ce que tu disais, Jean-Yves, ça n'existe plus aujourd'hui. Parce
enfin, coder, ça peut aussi servir à faire Brésil. Hein. Donc méfions-nous.
Nicolas.
Oui, je voulais dire qu'en fait, on a eu un débat et une des conclusions, c'est qu'on pense tous les quatre que la tech n'a pas nécessairement la place qu'elle mérite dans l'éducation. Oui. Je suis pratiquement convaincu d'ailleurs que tous nos auditeurs pensent la même chose. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que en fait, on parle à des gens qui sont convertis déjà là. Et donc, je pense que c'est aussi à nous, au sens large, donc on va dire geek, hein, même si j'aime pas trop ce mot, de faire l'effort de pédagogie, d'expliquer aux gens qui n'y connaissent rien, à votre grand-mère, à votre père, à vos collègues qui ne sont pas des digital natives, qui sont des digital naïves, de leur expliquer comment ça fonctionne d'une manière simple et qu'ils ne soient pas... parce que parfois aussi, le défaut qu'on a, nous autres qui connaissons bien ça, c'est qu'on est très fiers de connaître notre domaine et qu'on n'est pas très...
Pédagogue.
Et c'est ça qui fait aussi que les gens se renferment parfois sur eux-mêmes et ils n'ont peut-être pas envie d'y aller. Alors que si on leur explique simplement quels sont les enjeux, ils vont peut-être naturellement, d'eux-mêmes, et c'est aussi pour ça que je parlais de la petite graine tout à l'heure, s'intéresser à ces sujets. Et donc, je pense que plutôt, enfin, je pense que l'étape suivante, après que les gens auront fini d'écouter ce podcast, c'est de se tourner vers leur petite sœur et de leur expliquer en des termes simples les enjeux, quoi. Et je pense que petit à petit, on va pouvoir convaincre les gens.
Ben, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Nicolas, parce que finalement, c'est ce que moi j'essaye de faire. Alors, je parle de tech parce que c'est un sujet qui me passionne, hein, les auditeurs le savent bien, mais la manière dont je le fais, même si je parle à des passionnés, c'est ce que je disais en vous envoyant les explications sur ce que je voulais faire avec cette émission, hein, messieurs. Je parle généralement à des passionnés, mais pas à des spécialistes. Je pense que généralement, c'est plutôt des gens qui s'intéressent au sujet. C'est pas des gens qui comprennent absolument tous les tenants et les aboutissants et les enjeux des sujets qu'on traite. Et justement, si, j'essaye de le faire de manière assez vulgarisée. J'essaye toujours d'expliquer les choses pour que ça devienne accessible, justement. Donc c'est ce que tu dis, Nicolas, me parle énormément. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est justement rendre tous ces sujets très complexes beaucoup plus accessibles et que les gens comprennent pourquoi c'est tellement important. Et on l'a fait avec des choses comme Prism, avec Pipa et Sopa et toutes ces choses-là et tous les sujets qui font l'actualité. Et là où ça devient incroyablement important, c'est effectivement de ne pas se laisser emporter par son propre enthousiasme et de rentrer trop dans les détails ou d'expliquer trop avec trop le vraiment de mettre trop les mains dans le cambouis, d'essayer de trouver les termes simples qui seront compréhensibles par des gens qui n'ont jamais touché, qui ne se sont jamais intéressés à ces choses-là. Et si on fait tout ça tous ensemble, chers auditeurs et chers invités, peut-être que à force on pourra donner l'envie et surtout faire comprendre aux gens à quel point ces choses-là sont importantes. Et surtout, c'est pas que important, c'est passionnant comprendre comment fonctionnent toutes ces choses-là. Imaginez la tête de quelqu'un à qui on dit bah, « Tu sais, ta box là, Google, il n'est pas dedans. » Mais en fait, il y a des serveurs qui traversent l'espace, les mers et les continents. Enfin, des câbles qui traversent l'espace, les mers et les continents et des transmissions satellites pour aller aux États-Unis et te revenir en 0,5 secondes. C'est des choses qui sont passionnantes. Donc, peut-être que comme ça... Et en expliquant tous les enjeux, évidemment, qui sont extrêmement importants, avec la porte d'entrée de Prism notamment, mais il y en a d'autres, on arrivera à terme à faire de notre pays une nation qui comprend à quel point la tech est importante.
Je pense que ça, c'est la conclusion idéale.
Je tiens le titre de l'émission.
La tech est importante. Donc j'hésite entre ZX81, mais bon, je crois qu'on va rester sur spécial éducation. Ça sera un peu plus généraliste justement et facile à comprendre pour tout le monde. Merci messieurs. Merci vraiment du fond
merci
du cœur
de nous avoir invités.
Merci beaucoup
pour l'invitation. L'exercice. Ouais, peut-être, avant de nous quitter complètement, si vous avez des, je le dis souvent, hein, des liens ou des informations à donner sur où les gens soit peuvent vous retrouver sur Internet, soit retrouver des moyens d'approfondir les sujets qu'on a évoqués. Quels liens ou quels endroits ils pourraient aller fouiller.
Alors, par rapport à Itik, bon, il suffit de taper Itik et puis on trouve un certain nombre d'informations.
Tu peux les épeler pour être sûr que les gens...
Itik, c'est ITIC et puis EPI.
D'accord, en fait, il n'y a pas
moteur,
plus ça.
Sur un moteur de recherche comme XQuick, qui est un moteur qui enregistre pas ton adresse IP, par exemple.
Lequel?
Ça, pour le XQuick, par exemple, ça enregistre pas les adresses IP et t'es pas
fliqué. XQuick,
par...
donc XQU.
Non, mais ça, c'était une boutade, hein, pour dire qu'il faut pas utiliser un moteur de recherche.
Bah, j'ai bien compris.
Tu enregistres ton adresse IP.
Non, mais Jean-Yves, allons au bout de notre truc, hein.
D'accord.
Vraiment, X,
pour les utilisateurs qui voudraient ne pas être espionnés, donc il y a un moteur de recherche qui s'appelle XQuick, I-X-Q-U-I-C-K. Donc XQuick, I-X. QICK,
ouais, okay.
Qui est confidentiel. Donc en utilisant ce moteur de recherche, vous tapez Itik et EPI. Ça, c'est pour la partie Itik. Ensuite, sur l'AFUL, c'est très simple, c'est aful.org. Donc ça, c'est plutôt la partie logiciel libre. Et puis pour terminer sur le C2I, ceux qui seraient intéressés, en fait, quand on tape C2I dans un moteur de recherche officiel de l'éducation nationale qui donne le référentiel du C2I. C'est trois liens que je peux donner.
Super.
Et mon adresse mail, je sais pas, jean-yves.janas.
Oh là, d'accord, tu vas pour là.
atudif-lille2.fr pour ce qui est professionnel. Et
tu peux répéter, je suis pas sûr que.
Oui, c'est vrai qu'à la radio, c'est pas évident. Je sais pas, mais je pourrais peut-être le donner pour le mettre sur ton site.
Oui, à la limite, envoie-moi les liens que tu veux.
C'est plus simple que de dicter des adresses mail où on peut faire des fautes.
Pas de problème.
Donc, je ferai comme ça, je te donnerai des liens pour me contacter, voilà.
D'accord. Super, très bien, merci Jean-Yves. David.
Moi déjà, oui, je t'enverrai aussi des liens, donc ce sera plus simple. Et puis sinon, sur Twitter, DavR74130.
Ok, ça marche. DavR74130.
Voilà.
Super.
Je t'enverrai les liens.
Oui, ok, très bien. Comme ça, je suis en train d'essayer de tout noter dans les notes de l'émission. Envoyez-moi les liens, ça sera beaucoup plus simple. Nicolas, pour ta part. Nicolas a disparu.
Alors moi, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter. Non, vous m'entendez pas ?
Si, c'est bon.
Ah d'accord. Donc sur Twitter, N-I-C-O-G-L-A, Nicogla. Et sinon, en fait, à partir de septembre, on va ouvrir un master en business analytics pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien la techno et le business. Septembre 2014, donc les candidatures pourront être ouvertes très bientôt.
Très bien, et ça c'est à l'ESSEC, comme on le disait.
Voilà.
E2SEC, pour ceux qui ne le savent pas. Super, merci messieurs. Pour ma part, vous le savez, c'est NotePatrick sur Twitter. Pour ceux qui... Je voulais en parler au début de l'émission et puis je me suis dit que ça serait peut-être un petit peu long. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, il y en a peut-être quelques-uns qui ont été intrigués par le sujet de l'émission. Si vous ne nous écoutez pas en podcast, il faut savoir qu'il est possible de vous abonner à l'émission. Alors l'abonnement est gratuit, hein, c'est juste le fait de cliquer sur un bouton. Par exemple sur iTunes, parce que c'est un catalogue de podcasts facile à utiliser, et vous cherchez le Rendez-vous Tech sur iTunes et vous aurez... un moyen facile de suivre l'émission, mais elle est également disponible en format totalement libre en podcast, en RSS normal, hein. Vous pouvez avoir des applications, par exemple Podcast Addict sur Android ou Downcast, qui est ma préférée, sur iOS. Donc Podcast Addict sur Android et Downcast sur iOS. Vous pouvez télécharger tout plein de podcasts absolument passionnants. Et Jean-Yves, t'es en train de manipuler des papiers, on l'entend.
Oh, pardon.
Ah là, c'est le fouet qui sort. Les habitués de l'émission connaissent le fouet de Patrick. Il claque pas de temps en temps. Accessoirement, tiens, on l'a pas vraiment évoqué, mais si on veut parler d'éducation, il y a énormément d'initiatives très intéressantes, et notamment, c'est une société à but éminemment lucratif, mais Apple a un service qui s'appelle iTunes U, qui est iTunes University, à laquelle participent énormément de grandes universités américaines et certaines universités françaises.
Et certaines grandes écoles.
Et certaines grandes écoles également, qui vous permettent de suivre des cours de manière totalement gratuite, directement sur iTunes, avec des abonnements et des cursus et des programmes qui sont disponibles directement sur vos tablettes. Bon, malheureusement, c'est uniquement la pomme, hein, mais c'est quelque chose qui a quand même une très grosse valeur éducative, donc c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser. Et donc, en passant par là, vous allez sur le Rendez-vous Tech, et il y a d'autres émissions qui vous plairont peut-être, que j'ai le plaisir et le bonheur de produire. Donc voilà, le Rendez-vous Tech est disponible également en podcast et partout où il y a des podcasts qui sont livrés et servis. Moi, je serai absent encore pour 3 semaines, puisque, comme je le disais en début d'émission, je suis en ce moment au Japon en train de manger des nouilles et faire d'autres choses sympathiques de ce genre-là, et jouer à des jeux d'arcade dans des salles d'arcade complètement délirantes. Et je serai de retour dans 3 semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech, beaucoup plus classique, là. Comme vous le savez peut-être, on traite généralement l'actualité. Là, c'était un épisode spécial. Donc, on aura l'actualité dans 3 semaines. Et puis, d'ici là, écoutez, je vais souhaiter à tout le monde trois excellentes semaines supplémentaires. Remercier encore une fois les 3 intervenants de cette émission, dont je rappelle les noms: David Roche, Jean-Yves Janas et Nicolas Glady. Et puis on se retrouve très très bientôt dans l'émission. Merci à tous. Ciao ciao.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.